السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى. Donc en cette soirée du lundi 23 Rabi Thani 1437 de l'Hégire, soit le 1er février 2016, bi'idnillah ta'ala. Donc le mal et le remède, cours numéro 44. Les cours, inshallah ta'ala, commencent, yani, dorénavant, ce n'est pas 18h30, mais c'est plutôt vers 18h45, jusqu'à 19h. Maintenant, ça va monter davantage. Donc, ce n'est pas 18h30, bi'idnillahi ta'ala. Tayyib. Donc, aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, l'intimité recèle la perfection de l'amour. Page 259. L'intimité recèle la perfection de l'amour. Donc, on va parler maintenant du dernier degré de l'amour. Avant cela, comme petite révision, on va citer les six autres qui l'ont précédé, les six degrés de l'amour. Le premier, c'est le lien. Le deuxième, c'est le penchant. Le troisième, c'est l'attachement. Le quatrième, c'est l'amour fou. Le cinquième, c'est le désir. Ensuite, le sixième. Le sixième, c'est l'amour servile. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, le septième, l'intimité. Al-khulla. L'intimité, al-khulla. Tayyib. Ibn al-Qayyim, ala rahmatullahi ta'ala, dit vient ensuite l'intimité. Al-khulla, qui recèle la perfection et le summum de l'amour. Le summum, yani maximum. Le degré plus élevé, de sorte qu'il ne reste dans le cœur de celui qui aime, il ne reste plus aucune place pour autre que son être aimé. C'est un rang qui n'accepte l'association d'aucune façon, et c'est un rang spécifique aux deux amis intimes qu'Allah les couvre des loges et des saluts, Ibrahim et Muhammad alayhim as-salatu wassalam, ainsi que l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Allah m'a pris pour ami intime » de la même manière qu'il a pris Ibrahim pour ami intime. Rapporté par Muslim, numéro 532. « Allah m'a pris pour ami intime » de la même manière qu'il a pris Ibrahim pour ami intime. Donc ça, c'est spécifique à ces deux nabis, c'est tout. Ibrahim et Muhammad alayhi salam. Ou encore, dans l'autre hadith authentique, je désavoue toute personne qui prétendrait que je suis son ami intime. Je désavoue toute personne qui prétendrait que je suis son ami intime. Celui-là, il est cité, il y en a par Muslim 38-83. Ibn al-Qayyim rahmatullah ta'ala dit, lorsqu'Ibrahim alayhi salam demanda un enfant et qu'on le lui accorda, alors son amour pour lui, pour cet enfant, pénétra son cœur et en prit une part. L'être aimé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, fut jaloux qu'il puisse y avoir dans le cœur de son ami intime une place pour un autre. Ainsi, il lui ordonna de le sacrifier. L'ordre survint en rêve, afin que la réalisation du commandement soit d'une plus grande épreuve encore. Le but n'était pas de sacrifier l'enfant, mais de le sacrifier dans son cœur, afin que le cœur soit exclusivement voué au Seigneur. Lorsque l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, Ibrahim, se pressa de se conformer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il préféra l'amour d'Allah à l'amour de son enfant, l'objectif fut atteint. L'ordre du sacrifice de l'enfant fut levé, et on le remplaça par un bélier immense. Ceci, car le Seigneur n'ordonne pas une chose pour ensuite l'invalider totalement. Mais il doit rester une partie de cet ordre ou un substitut. De la même manière qu'il maintint la législation de la rançon, de la recommandation d'effectuer une aumône avant de converser avec le prophète islam, des saintes prières après avoir levé les 50, tout en maintenant leur récompense. Et il dit, d'après le hadith de Bukhari et de Muslim, il dit, la parole ne change pas auprès de moi, c'est-à-dire Allah Ta'ala dit, la parole ne change pas auprès de moi. Elles sont au nombre de 5 dans la pratique et 50 dans la récompense. Vous m'entendez, j'espère. Alhamdoulilah. Ici, c'est très important ce qu'il a dit. C'est très important ce qu'il a dit. Il a dit, lorsqu'Ibrahim demanda un enfant et qu'on le lui accorda, son amour pour lui, pour Ibrahim, son amour pour son enfant, pénétra son cœur et en prit une part. Alors l'être aimé fut jaloux qu'il puisse y avoir dans le cœur son ami intime une place pour un autre. Alors il lui ordonna de le sacrifier. Un peu plus bas, il dit, non, le but n'était pas de sacrifier l'enfant, mais de le sacrifier dans son cœur, afin que le cœur soit exclusivement voué au Seigneur. C'est pour ça que lorsque l'ami intime d'Allah se pressa et se hâta de se conformer à l'ordre et qu'il préféra l'amour d'Allah à l'amour de son enfant, alors l'objectif fut atteint et l'ordre du sacrifice de l'enfant fut abrogé. Ça y est. Et on le remplaça par un bélier immense. Subhanallah al-Azim. Non. Donc ça, c'est dire que quoi? Dire que, comme il a dit au début, il a dit, je crois qu'on l'a lu, il a dit, le khulla, c'est-à-dire l'intimité, c'est quoi? Ça recèle la perfection et le summum de l'amour, de sorte qu'il ne reste dans le cœur de celui qui aime, il ne reste plus aucune place pour autre que son être aimé. Naam, ni enfant, ni rien, ni épouse, ni père, ni rien. Ça devient l'amour intime. Ça devient l'amour intime. Et il y a, n'a atteint ce statut que Ibrahim alayhi salam et Muhammad alayhi salatu salam. Autre titre. L'amour est général et l'intimité est spécifique. L'amour est général et l'intimité est spécifique. Quant à ce que certaines personnes, quant à ce que certaines personnes, induites en erreur, pensent du fait que l'amour est plus parfait que l'intimité, et qu'Ibrahim alayhi salam, est l'ami intime d'Allah, et Muhammad alayhi salam, le bien-aimé d'Allah, c'est une ignorance. Naam. Beaucoup croient comme ça. Beaucoup. Naam. Beaucoup croient comme ça. Ils disent de Muhammad alayhi salam, qu'est-ce qu'ils disent? Habibullah. Surtout ça se trouve beaucoup chez les Égyptiens. Muhammad Habibullah. Non, quand tu dis Habibullah, tu as dévalorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il est l'intime, il n'est pas le Habib. Non, Habib, c'est nous tous, Habibullah. Mais être intime d'Allah, c'est ça, le statut du prophète alayhi wa sallam. Il dit ici, c'est une ignorance. Pourquoi? Ceci, car l'amour est général et l'intimité est spécifique. L'intimité, c'est le summum de l'amour. Et le prophète alayhi wa sallam a mentionné qu'Allah l'a pris pour ami intime, de la même manière qu'il a pris Ibrahim pour ami intime. Et il a nié qu'il puisse avoir un ami intime en dehors de son Seigneur. Bien qu'il ait mentionné son amour pour Aïcha et son père, pour Omar ibn Khattab et d'autres. Ainsi Allah Ta'ala a dit, ou si Allah Ta'ala a dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Voilà, le Baqara 222. Pourquoi on a cité ce verset? Pour te dire que tous ceux qui se repentent, Allah Ta'ala les aime. Et aime ceux qui se purifient. Tous ceux qui se purifient, Allah Ta'ala les aime. Donc, nous tous, on est des amis d'Allah. Naam, il nous aime. Habib Allah. Mais est-ce qu'on est des intimes? On ne l'est pas. Aussi, il a dit, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime ceux qui patientent. Allah aime ceux qui patientent. Ali Imran 146. Allah aime ceux qui patientent. Toute personne qui patiente, Allah Ta'ala l'aime. Elle devient Habibullah, l'ami d'Allah. Mais est-ce qu'elle devient ami intime? Jamais. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Ali Imran 146. Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Naam. Donc toute personne qui est bienfaisante, Allah Ta'ala l'aime. Mais peut-elle être ami intime d'Allah? Jamais. Allah Ta'ala dit, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime ceux qui sont équitables. Sourate Al-Ma'ida, verset 42. Allah aime ceux qui sont équitables. Al-Ma'ida 42. Donc, ça ne veut pas dire que je suis, parce que je suis équitable, que je suis un ami intime. Mais je suis seulement quelqu'un que Allah Ta'ala aime. Naam. De même, il dit le jeune qui se repent, est le bien-aimé d'Allah. Alors que son intimité est spécifique aux deux amis intimes. Donc, comme j'ai dit, on est tous des bien-aimés d'Allah. Je veux dire tous, quand on est bienfaisant, quand on est endurant, quand on est pur, quand on fait ce que Allah Ta'ala aime, on devient son bien-aimé, on devient le bien-aimé d'Allah. Mais on ne devient pas quoi? On ne devient pas l'ami intime. Tout à l'heure, j'ai dit, on devient ami. Non, je dis mieux, on devient bien-aimé. Mais on ne devient pas l'ami intime. Cette prétention, c'est-à-dire prétendre que l'amour est plus parfait que l'intimité. Certains croient que le fait que tu dises Muhammad Habibullah, non, c'est mieux que tu dises Muhammad Khalilullah. Ça, c'est pas vrai d'Ibn al-Qayyim. Cette prétention, non, et qu'est-ce qu'il dit ici? Cette prétention ne naît que d'une faible science et compréhension, c'est-à-dire et faible compréhension d'Allah et de son message. Naam. Donc, résumé, conclusion, l'intimité est beaucoup plus haute. Naam. Et beaucoup mieux. Et haute. Naam. D'ailleurs, c'est le summum, c'est le maximum, c'est l'apogée. Naam, de l'amour. C'est beaucoup plus haut que être bien aimé. Tayyib. 93. Le délaissement et l'avilissement pour l'être aimé. Le délaissement et l'avilissement pour l'être aimé. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, Allah Ibarak, Abu Turab, il écrit, vite Allah Ibarak. Que Allah Ta'ala l'aide à ce qu'il continue comme ça. Tayyib, il dit ici, il a précédé que l'homme ne délaisse ce qu'il aime et désire que pour ce qu'il aime et désire. Écoutez bien, je répète. L'homme c'est l'être humain, bien sûr, ne délaisse ce qu'il aime et désire. Pourquoi il les délaisse? Il les délaisse que pour ce qu'il aime et désire. Comprenez? L'être humain, s'il délaisse une chose qu'il aime et qu'il désire, pourquoi? Parce que, il y a autre chose, pour que il arrive à ce qu'il aime et ce qu'il désire. Mais il délaisse ce qu'il aime le moins pour ce qu'il aime le plus. De la même manière qu'il accomplit ce qu'il déteste. Il accomplit, l'être humain, des fois, la personne accomplit ce qu'elle déteste pour susciter ce dont l'amour est plus fort que la répugnance pour ce qu'il accomplit. Ou pour se défaire d'une chose dont le caractère détestable est plus grand pour lui que ce qu'il accomplit. Il a précédé que la spécificité de la raison, c'est quoi? On l'a cité dans il y a deux ou trois cours. C'est de quoi? C'est de préférer la plus élevée des deux choses aimées. Non, on dit de quelqu'un qu'il est mashallah, qu'il est lucide, qu'il est raisonnable, qui c'est quoi? Assalamu alaikum. Je crois que j'étais déconnecté, je savais pas. Est-ce que vous pouvez prendre le micro et me dire personne lucide? Taïeb. Donc je ne sais pas exactement où j'étais, une personne lucide, mais je redis très vite, je redis très vite. Vouloir s'attirer le bien et pousser le mal, repousser le mal de soi-même, c'est une chose que Allah Ta'ala a créée comme fitra dans la personne, dans la prédisposition naturelle. Même les animaux ont ça. L'animal aime s'attirer le bien et repousser le mal. Mais la personne lucide, la personne raisonnable, la personne yani, kiyis, c'est qui? Ce n'est pas seulement celui qui s'attire le bien, mais qui s'attire le meilleur bien. S'il y a deux biens, un petit bien, un grand bien, je m'attire le grand bien. Et s'il y a deux maux, un petit mal et un grand mal, je pousse le grand mal. C'est-à-dire, je fais seulement le petit mal. C'est ça, yani, qui montre, yani, la différence aussi entre nous, par exemple, et les animaux. Et nous et les animaux des humains. Parce que même parmi les animaux, les humains, il y a des animaux. Ceux qui n'adorent pas Allah, font ce qu'ils veulent, sont des animaux. Bon, boivent, mangent et dorment comme les animaux. Le muhim. Donc la personne, le kiyis, c'est quoi? Il s'attire le plus grand bien et pousse, repousse de lui le plus grand mal. Le muhim. Maintenant, pour pouvoir arriver à ce statut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. La première, il faut avoir la perception. Non, il faut avoir une grande perception. Non, cette perception, qu'est-ce qu'elle fait? La perception, elle te permet de percevoir, non, de comparer, de savoir que ce bien est plus grand. Donc, tu essaies de l'attirer. Elle te permet de savoir que ce mal est plus grand. Donc, tu vas essayer de le repousser. Donc, celui qui n'a pas la perception, il ne peut pas, comment il peut percevoir des choses si c'est un fou ou bien quelqu'un, un drogué ou je ne sais qui. Il faut quelqu'un qui ait de la perception. Et cette perception, elle s'accentue, devient plus forte. Quand est-ce? Quand on a du ilm. Plus on a du ilm dans la religion, plus cette perception, elle nous permet vite de savoir quel est le plus grand mal pour le repousser, quel est le meilleur bien, le plus grand bien pour l'attirer, idhnallah subhanahu wa ta'ala. Taïb, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le courage du cœur. Naam. Tu peux avoir la perception et être impuissant de cœur, avoir un cœur malade et faible qui ne peut rien faire. Ton âme est faible. Naam. Tu sais que ça, c'est un grand bien. Et tu le laisses passer. Tu dis, moi je m'en fous. Moi je cherche pas ça. Moi l'essentiel c'est que je prends mon joint. Je prends mon joint, je remplis ma tête et je m'endors. Je cherche pas autre chose. Tu laisses le grand bien passer. Non. Et tu sais aussi quoi? Des fois, tu sais que le grand mal, c'est dans cette chose. Si tu fais ça, c'est un grand mal. Et si tu fais ça, c'est un petit mal. Normalement, fais le petit mal si tu es obligé de faire l'un des deux. Non. Il sait que ça, c'est un grand mal et il le fait. Non. Pourquoi? Il n'a pas la force du cœur pour le repousser. C'est un peu comme le drogué. Il sait que la drogue, c'est sa perte. Et il sait très bien. Il sait que la cigarette, c'est moindre mal comparé à la drogue. Mais, il fume la drogue ou il boit la drogue ou je ne sais pas quoi. Donc, malgré qu'il a la perception, il n'a pas le courage du cœur. Donc, il faut deux choses. La perception et le courage du cœur. Il dit ici. Non. Il dit ici. Voilà. Cela ne peut être réalisé qu'à travers deux choses. La force de la perception et le courage du cœur. Car le manquement à cela et l'accomplissement de ce qui s'y oppose naît soit d'une faiblesse perception. Ainsi, alors, il ne perçoit pas les degrés de ce qui est aimé et détesté tels qu'ils sont, ou alors, soit d'une faiblesse d'âme et d'une impuissance du cœur, si bien qu'il ne s'accorde pas sur la priorité donnée à ce qu'il sait être meilleur. si sa perception est correcte, que son âme a la force et son cœur a le courage de choisir ce qui est le plus aimé et le moins détestable, on lui aura accordé les moyens de parvenir au succès. On lui aura, c'est-à-dire Allah Ta'ala, l'âme, s'il donne à une personne une perception correcte et lui donne la force de son cœur, l'âme, pour pouvoir choisir ce qui est plus aimé et moins détestable, alors Allah Ta'ala lui a donné les moyens pour le faire parvenir au succès bi'idhnillah Ta'ala. Il aide des gens, ça veut dire il y a des gens. Il aide des gens dont le pouvoir de leur désir est plus fort que le pouvoir de leur raison et de leur foi. Subhanallah l'adhim. Non, mais c'est vrai. Donc il y a des gens dont le pouvoir de leur désir et de leur passion est plus fort que le pouvoir de leur raison et de leur foi. Ainsi, le fort domine le faible. Et d'autres personnes, dont le pouvoir de la foi et de la raison est plus fort que le pouvoir de leur désir. C'est ça, c'est comme ça qu'on demande à Allah Ta'ala qu'on soit et qu'il fasse de nous. Donc, on voudrait être la deuxième catégorie. C'est-à-dire, on voudrait avoir le pouvoir de la foi et de la raison plus fort en nous que le pouvoir du désir et des passions. Nombre de malades se voient ordonnés par le médecin de s'abstenir de ce qui leur nuit, mais leur âme et leur passion veulent le consommer. Alors ils préfèrent leur passion à leur raison. Et les médecins les nomment les dénués de bienséance. Donc, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Nombre de malades se voient ordonnés par le médecin de s'abstenir de ce qui leur nuit. Le médecin leur dit attention, par exemple, à la cigarette. Attention, par exemple, au café noir. Attention au piment, par exemple. Mais leur âme et leur passion veulent consommer ces choses. Attention à l'alcool. Mais son âme et ses passions le poussent à consommer. Alors, pourquoi ? Ils préfèrent leur passion à leur raison. Donc ce malade-là, par exemple, quand il fait ça, ce que lui a interdit le médecin, il sait que c'est interdit et que ça mène à sa perte. Mais pourquoi il le fait ? Sa passion a dominé sa raison. Sa passion a dominé sa raison. Il en est de même pour la plupart des malades du cœur qui préfèrent ce qui augmente leur mal en raison de leur désir pour cette chose. Il en est de même pour la plupart des malades du cœur. Malade du cœur, c'est pas malade du cœur, c'est-à-dire il a quelque chose dans le cœur, c'est-à-dire il va aller chez le cardiologue. Non, malade du cœur. Vous savez les maladies du cœur, le hasad, l'hypocrisie, ria, ceci, cela. Il a dit qu'il préfère ce qui augmente leur mal. Pourquoi ? En raison de leur désir pour cette chose. Et bien sûr, tout ça c'est comme préambule pour dire que yani, comment la personne sait que yani, l'essentiel c'est l'au-delà. Sa raison lui dit que l'essentiel c'est l'au-delà. Mais sa passion le pousse à quoi ? À délaisser l'au-delà et à yani, assouvir les passions de ce bas monde. C'est celui-là le vrai malade. Celui-là, le grand malade. Le grand malade inguérissable, incurable. Il dit ici, le fondement du mal réside dans la faiblesse de la perception. La faiblesse de l'âme et sa bassesse. C'est ça le fondement du mal. Le fondement du mal se trouve dans deux choses. La faiblesse de la perception. Tu n'as pas une grande perception. Ta perception est faible, le discernement est faible. Tu ne peux pas discerner entre le mal et le bien. Et si tu discernes entre le mal et le bien, tu ne peux pas discerner entre les deux grands mots. Yani, quel est, parmi les deux mots, quel est le plus grand et le plus détestable pour s'éloigner de lui. Et parmi les deux biens, quel est le plus grand bien pour pouvoir le faire. Donc, tu n'as pas ça. Et il a dit, la deuxième chose, c'est la faiblesse de l'âme et sa bassesse. Comme on a dit tout à l'heure, des fois tu sais, tu as la perception, alhamdoulilah, mais malgré cela, les passions ont dominé. Les passions ont dominé et tu fais ce que tu sais et dont tu es convaincu qu'il va te ruiner. À l'opposé maintenant, à l'opposé, le fondement du bien réside dans quoi ? Réside dans la perfection de la perception. La perfection de la perception. Et la force de l'âme, sa noblesse et son courage. C'est-à-dire l'opposé. Je répète, à l'opposé, le fondement du bien et de tout bien réside dans la perfection de la perception. Et ça, j'ai dit tout à l'heure, plus on a de science en religion, plus notre perception devient parfaite. Et en plus de ça, il faut ajouter quoi ? Il faut ajouter la force de l'âme. La force de l'âme, sa noblesse et son courage. L'amour et la volonté sont le fondement et la base de tout acte. Alors que l'aversion et le dégoût sont le fondement et la base de tout délaissement. Je répète, c'est très important. L'amour et la volonté sont le fondement et la base de tout acte. Non. Si tu n'aimes pas une chose et que tu ne la veux pas, non. Donc, cette chose n'arrivera jamais. Pour que cette chose arrive, il faut deux choses. Que tu l'aimes. Car si tu ne l'aimes pas, tu ne vas rien faire pour l'avoir. Non. Mais l'aimer ne suffit pas. Encore faut-il que tu veuilles. Ah, il faut que tu bouges maintenant pour avoir cette chose. Il faut la volonté. Non. J'aime peut-être être médecin, mais il faut que je fasse les études. Non, c'est pas seulement j'aime, il faut que je fasse les études. Il dit, alors que l'aversion, le fait de ne pas aimer une chose, et le dégoût sont le fondement et la base de tout délaissement. Pour que tu délaisses une chose, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'aversion, ne pas l'aimer, et ça suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas ? Car des fois, tu n'aimes pas une chose et tu la fais. J'aime pas la cigarette et je la fume. J'aime pas l'alcool et j'en bois. Donc, ça ne suffit pas. L'aversion envers une chose ne suffit pas. Mais encore faut-il quoi ? Il dit, il faut le dégoût. Naam. Il faut le dégoût pour délaisser la chose. Si tu as seulement l'aversion et la haine de cette chose, ça ne suffit pas. Il faut encore le dégoût pour s'en détacher et s'en éloigner. Il dit ici, ces deux forces dans le cœur sont le fondement du bonheur ou du malheur de l'être humain. Ces deux choses dans le cœur, ces deux forces dans le cœur sont le fondement du bonheur ou du malheur de l'homme. L'existence d'un acte volontaire ne peut survenir que par l'existence de sa cause dans l'amour et la volonté. Ce qu'on a dit tout à l'heure, l'existence d'un acte volontaire ne peut subvenir et exister que par l'existence de sa cause, dans l'amour de cette chose et la volonté de la faire. Quant au fait de ne pas agir, cela peut parfois être dû à l'absence de ce qui implique et cause l'acte, et d'autres fois à l'existence d'une aversion et d'un dégoût qui l'empêche. Naam. Je répète, quant au fait de ne pas agir et de ne pas faire une chose, cela peut parfois être dû à l'absence de ce qui implique et cause l'acte. Non, des fois, par exemple, je ne vole pas. Pourquoi je ne vole pas ? Des fois, c'est parce que il y a absence de ce qui implique et cause l'acte. Dans mon cœur et dans mon esprit, non, je ne pense pas à cette chose. Donc si je ne pense pas au vol, je ne peux pas voler sans penser déjà à voler. Pour voler ou faire un acte, non, il faut déjà l'avoir dans le cœur, avoir l'intention, ensuite le faire. Donc il dit, des fois, c'est à cause qu'il n'existe pas dans le cœur, non, et des fois, c'est dû à, et d'autres fois, c'est dû à l'existence d'une aversion et d'un dégoût qui l'empêche. Et des fois, j'ai le vol dans le cœur, mais alhamdoulilah, en même temps, j'ai l'aversion pour cette chose et la haine. C'est pour ça que je ne vole pas. J'ai l'aversion et j'ai la haine. Bien sûr, l'aversion et la haine elles-mêmes, d'où est-elle venue, ça dépend. Peut-être parce que j'ai honte des gens. Peut-être je dis c'est pas quelque chose de bien. Ou peut-être ça vient du din. Quand ça vient du din, c'est très fort. Quand la cause, c'est le din, c'est très fort. Et quand la cause, c'est seulement yani, les gens, etc. Non, c'est pas très fort et c'est pas fort. Pourquoi? Et si, car s'il n'y a pas les gens, je peux voler. Si je suis dans un endroit, il n'y a personne qui me voit, je peux voler. Mais si c'est pour Allah, je ne le fais dans aucun cas. Il dit ici, c'est à cela que sont liés les ordres et interdits. Et c'est ce qu'on nomme l'abstention. L'abstention, el kef, en arabe, el kef. Et c'est également à cela que sont liés la récompense et le châtiment. La récompense et le châtiment. Ainsi, se dissipe l'ambiguïté. Naam, ainsi se dissipe l'ambiguïté au sujet du délaissement, quant à savoir s'il vise à produire des actes ou à empêcher leur existence. La vérité est qu'il se compose de deux parties. Le délaissement lié à l'absence d'une cause. Il dit, le délaissement lié à l'absence d'une cause vise à empêcher son existence, et celui qui est lié à une cause, empêchant la survenue de l'acte, vise à produire des actes. Là, je répète, il dit ici, ainsi se dissipe l'ambiguïté au sujet du délaissement. Le kef, quand on ne fait pas une chose. Naam. Parce que, quand on ne fait pas une chose, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je ne l'ai pas faite? Je ne l'ai pas faite, il se peut que cette chose ne me soit même pas passée par l'esprit. Mais, il se peut que cette chose soit passée par mon esprit, se trouve même dans mon cœur, et je la délaisse. C'est cette deuxième, c'est ce deuxième volet, le fait d'avoir la chose dans le cœur et de ne pas la faire, si elle est interdite, et que je ne la fais pas pour Allah, c'est ça ce qui donne la récompense, bi'idhnillahi ta'ala, et non pas le premier. Car le fait de ne pas avoir une chose dans la tête et de la délaisser à cause de cela ne donne pas la récompense. Exemple. Maintenant, quand vous êtes assis en face de moi, écoutez le cours. Vous n'êtes pas en train de mentir, ni en train de faire la namima, ni en train de fumer, ni de boire l'alcool. Mais est-ce que vous avez des récompenses pour cela? Non. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne sont pas venues à l'esprit. À la base, déjà, vous n'avez pas à l'esprit. Vous êtes en train d'écouter un cours, et d'essayer d'apprendre, etc. Mais, quand est-ce qu'on a la récompense? Quand il y a deux choses. Il faut que cette chose te vienne à l'esprit, hein, ensuite que tu la laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est-à-dire avant de t'asseoir pour venir au cours, tu as dit je vais, enfin pas vous, une autre personne, une personne dit je vais faire un haram. Ensuite, elle dit non, je ne fais pas le haram. Et ça ne suffit pas pour avoir la récompense. Mais encore faut-il qu'elle dise je ne fais pas le haram pour Allah ta'ala. Allah ta'ala l'a interdit et n'aime pas qu'on le fasse. C'est comme ça, c'est ainsi seulement qu'on peut avoir une récompense pour le kef, pour le kef, c'est-à-dire pour l'abstention, pour m'être abstenu. Enfin, dernier chapitre pour aujourd'hui, l'acte et le délaissement volontaire. Vous avez écrit l'acte, naam, et le délaissement volontaire. C'est ce que je disais. Naam, je fais une chose, ou bien je la délaisse volontairement. L'acte et le délaissement volontaire sont choisis par celui dont le cœur est vivant, en fonction de la survenue d'un bienfait dont il jouira, ou la disparition d'un mal qui le guérira. Ainsi, on dit qu'on a guéri sa poitrine et son cœur. Je répète, l'acte et le délaissement volontaire sont choisis par celui dont le cœur est vivant. Naam. En fonction de quoi ? En fonction de la survenue d'un bienfait dont il va jouir ou la disparition d'un mal qui va le guérir. Ainsi, on dit qu'on a guéri sa poitrine et son cœur. Le poète a dit, elle est mon remède contre le mal qui me ronge, si seulement je pouvais l'obtenir. Hélas, il n'est pas de remède qui puisse me guérir de l'amour que j'éprouve pour elle. C'est une chose que choisit l'homme sensé. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, c'est une chose que choisit l'homme sensé et même l'animal sauvage. Mais nombre de gens commettent en cela une erreur grossière. Ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent la jouissance en ce qui va leur mener, en ce qui va leur causer une plus grande souffrance. Donc, ici, Ibn al-Qayyim veut montrer que c'est bien, Naam, de jouir d'un bienfait et de guérir d'un mal, mais à condition que la jouissance que je cherche ne me cause pas une plus grande souffrance. Naam. C'est pour ça qu'il dit, beaucoup de gens commettent en cela une erreur grossière, c'est quoi? Ainsi, ils cherchent la jouissance en ce qui va leur causer une plus grande souffrance. Ils font souffrir leur âme en pensant leur apporter jouissance. Et ils soignent leur cœur, par quoi? Parce qu'il va causer le plus grand mal. Il dit, c'est la condition, c'est l'exemple, hein, de celui dont le regard se borne à la vie d'ici-bas, sans prendre en considération les conséquences. Alors que la spécificité de la raison, c'est quoi? C'est de considérer les conséquences. Naam, c'est ça celui qui raisonne vraiment, le mu'min, le croyant, le lucide. Ce n'est pas seulement yani, faire la chose, mais voir ce qu'on appelle en arabe le ma'alat, voir les conséquences. Quand je vais faire cette chose, naam, ça va donner quoi? Qu'est-ce qui va en découler? C'est bien de fumer la cigarette à l'instant où on fume, naam. Mais dans 20 ans, si je vais faire une radio, comment qu'on va trouver mon foie? On va le trouver noir comme du charbon. Le foie noir comme du charbon. Ça, c'est seulement la cigarette. C'est pas la peine de parler ceux qui fument la drogue et l'alcool, etc., etc. On va avoir le foie brûlé. Donc, il faut voir les conséquences. Non, il dit ici, l'homme le plus sensé, poumon, afon, j'ai dit foie, poumon, ça c'est les poumons, barakallahu fi, c'est des poumons. L'homme le plus sensé, c'est qui? C'est celui qui préfère sa jouissance et son repos dans la vie future et éternelle. À ceux éphémères de la vie présente. Je répète, l'homme le plus sensé, c'est qui? C'est celui qui préfère sa jouissance et son repos dans la vie future et éternelle plutôt qu'aux jouissances éphémères de la vie présente. Éphémères, fugaces, qui ne durent pas, juste un instant, et ça part. Le plus sot des hommes, ça c'était le plus sensé des hommes. Au contraire, à l'opposé, le plus sot des hommes, le plus sot, c'est qui? Et celui qui vend les délices éternels, la bonne vie éternelle et la jouissance suprême qui ne comporte ni désappointement ni aucune imperfection, ils vendent tout ça pour quoi? Pour une jouissance éphémère, mêlée de souffrance et de peur, à la disparition rapide et à la fin imminente. Voilà le plus sot des gens. Celui qui voit, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Naam. Tu lui dis, regarde, Allah Ta'ala te fait choisir entre deux choses. tu vis une vie éternelle. Où tout ce que tu souhaites, il vient à l'instant même. Bien sûr, on parle du paradis. Tu vis, yani, une vie qui ne se termine jamais. Éternelle, sempiternelle. C'est pas seulement éternel, sempiternelle. Naam, tu as tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tout ce que tu souhaites, il sera à côté de toi. Alors, mais Allah Ta'ala t'a fait choisir, il te dit, si tu veux ce qu'on vient de citer maintenant, alors il ne faut pas s'accrocher à cette vie, à ce bas monde. Il faut en faire de ce bas monde juste, yani, quelque chose, yani, comme un pont pour traverser et aller de l'autre côté. Alors le plus sensé, c'est celui qui va choisir l'au-delà. Et le plus sot, naam, il dit non, moi ce qui m'intéresse c'est de vivre aujourd'hui. Même si les jouissances qu'il y a dans ce bas monde sont mêlées de souffrances et de peurs et de malheurs et d'angoisses, il choisit le bas monde. Et tu lui dis, écoute, il y a beaucoup mieux que cela dans l'au-delà. Yani, c'est pur, c'est pas mêlé de souffrances, de peurs, d'angoisses, rien, rien. Tu dis non, moi je lâche pas ce que j'ai dans ma main pour aller chercher ce qu'il y a dans un trou ou quelque chose comme ça. Je lâche pas maintenant la vie qui est là devant moi, même, et qui me sourit, et je la laisse, et je vais attendre dans 50 ans ou 60 ans quand je meurs pour avoir tout ça. Donc, vous voyez le saut comment qu'il pense. Non, c'est comme ça qu'il pense. Mais l'homme sensé, il dit, ma'alish, ma'alish. J'ai la conviction qu'il y a tout ça dans l'au-delà. Ma'alish. Je patiente ici. Je patiente du peu. Je vis avec le peu. Non, ma'alish, ma'alish. J'accepte. Il dit, un savant a dit, j'ai réfléchi sur ce vers quoi cheminent les hommes doués de raison. Ce savant, c'est Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Akhlaq al-Sayyid, page 13-16. Il a dit, j'ai réfléchi sur ce vers quoi cheminent les hommes doués de raison. Et j'ai constaté qu'ils cheminaient vers un seul objectif, même si leur voie différait dans la manière de l'atteindre. J'ai constaté que tous, il parle des hommes doués de raison, hein, tous essayaient de repousser les soucis et angoisses, l'un par la nourriture et la boisson, un autre par le commerce et les biens, un autre encore par le mariage, d'autres encore en écoutant des instruments et voix mélodieuses, ou encore par la frivolité et le jeu. Je me suis dit, c'est là l'objectif des hommes doués de raison. Mais toutes les voies n'y mènent pas, et la plupart d'entre elles ne mènent qu'à son contraire. Et je n'ai vu parmi toutes ces voies qu'une seule menant à cet objectif. C'est quoi? Celle qui consiste à se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, n'adorer que lui et de préférer son agrément à toute chose. Si celui qui emprunte cette voie, naam, manque une part de ce bas monde, il obtient la part élevée avec laquelle n'existe nul manque. Si l'homme l'obtient, il obtient toute chose. Et s'il la manque, il manque toute chose. Et s'il obtient sa part de ce bas monde, c'est de la manière la plus heureuse. Enfin, il dit, il n'est pour l'homme, c'est-à-dire l'homme doué de raison, de voie meilleure et plus à même de le faire parvenir à sa délectation, son bonheur et son succès. Il n'y a pas, il y a seulement la voie d'Allah. Et c'est Allah Azza wa Jal qui accorde la réussite. Il vient d'appeler à Salat al-Isha, on se rencontre dans une demi-heure au moins. Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, Mahmoud, est-ce que vous êtes prêt pour les questions? Vous êtes prêt? Alhamdulillah. Et en même temps, dites-moi, c'est qui le nom du récitateur? Car sa récitation m'a beaucoup plu. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, pour la première question.
Wa'alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la première question. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous préserve, ya Cheikh, et vous récompense pour le temps que vous consacrez à la communauté. Amin. Je souhaite te poser une question sur un cours précédent. Un frère consomme le narguilé, la chicha. Il l'achète avec les intérêts perçus de la banque. Qu'en est-il de la gravité de son péché? Comment se repentir de cette situation? Doit-il sortir les intérêts malgré le fait que l'argent a été dépensé? Barakallahu fikoum, yachir. Donc, déjà dans cette question, il y a trois questions. Donc, yachir, soit vous répondez à la première question, ou soit vous répondez aux trois questions, mais on avait dit une question par personne. Barakallahu fikoum. Fadal, yachir.
Donc, un frère consomme le narguilé, la chicha. Elle achète avec des intérêts perçus de la banque. Qu'en est-il de la gravité de son péché? Comment se repentir ça? Doit-il sortir ses intérêts malgré le fait que l'argent ait été dépensé? La chicha est interdite. Et haram. Et bien sûr, ce n'est pas de la drogue. Vous savez que ce n'est pas de la drogue. Mais, ou du moins, ce que je sais... Je parle d'Algérie. Chez vous, qu'est-ce qu'on met dans la chicha, je ne sais pas. Mais, yani, ceux qui fument, sont unanimes pour dire que c'est plus grave que la cigarette, question de santé. Que question de santé, la chicha, qui est devenue une mode pour les hommes et les femmes, c'est plus grave que la cigarette. Quelqu'un m'a dit, quand j'étais au Koweït, il m'a dit, j'ai jamais fumé la chicha. Il m'a dit, j'ai essayé une fois. Il m'a dit, quand j'ai fait rentrer la fumée dans ma poitrine, j'ai presque étouffé. Il m'a dit que, yani, vu la densité la dose de la fumée et la nicotine qu'il y a dans cette chicha. Et en plus de cela, bon, qu'est-ce qui est écrit ici? La chicha représente un danger pour la santé pour tous ceux qui s'y adonnent. La chicha provoque des effets néfastes sur la santé qu'il faut connaître. La composition de la chicha est d'environ 25% de tabac, associé à un mélange de la mélasse et d'arômes de fruits. La sensation parfumée agréable est trompeuse, car les fumeurs de chicha n'ont pas idée de la quantité de produits toxiques inhalés et de leurs effets nocifs sur la santé. Contrairement aux idées reçues, fumer le narguilé est très néfaste. Pour la santé, fumer la chicha augmente le risque de cancer, etc. El Mouhim. Donc, comme il a dit ici, la sensation parfumée agréable est trompeuse. Il croit que il est en train de fumer des bananes, ou il est en train de fumer je ne sais pas quoi, des pommes, etc. Mais comme m'a dit le frère, qui l'a essayé pour la première fois, il m'a dit, yani, j'ai senti mon poitrine qui voulait éclater. C'est dire quoi? La gravité. Non. Et la deuxième des choses, il vient de faire ça avec quoi? Avec l'argent des intérêts. L'argent des intérêts, on doit le donner à des nécessiteux. Pour ceux qui disent c'est permis de le prendre. Le Cheikh Ben Othaymine a une fatwa où il dit c'est même pas permis de le prendre de la banque. El Mouhim, si on prend de l'avis qu'on le prend, à condition que ce ne soit pas pour nos intérêts. Comme disent certains, c'est pour payer l'essence ou l'électricité ou le gaz ou le téléphone ou la cigarette ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est pas permis. Donc, pourquoi? Car tu es en train de profiter du haram. Tu as fait le haram et ensuite ce haram lui-même, tu profites de lui à tes dépens. Non, il faut le donner aux nécessiteux ou bien à l'hôpital ou à n'importe où. Mouhim, tu dois le donner à des gens qui en ont besoin. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. نعم تفضل
نعم جزاك الله خيرا يا شيخ donc nous allons passer à la deuxième question d'un frère qui demande Cheikh, lorsque l'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'ami intime d'Allah azza wa jal, y a-t-il une explication à cette parole ou est-il interdit de demander le comment ou de faire une comparaison? جزاك الله خيرا تفضل يا شيخ وبارك الله فيك.
Quand on dit il est l'ami intime, c'est pour dire que il n'est pas seulement l'ami, pour dire qu'il a atteint le summum dans la relation étroite avec l'être aimé. Non. Avec Allah, on a tous une relation, nous, ça. Le fait de l'adorer, déjà, tu as une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la relation la plus étroite avec lui, et le summum de cette relation, c'est d'être son ami intime. Voilà. Et ça, ça ne peut être donné, et n'a été donné, qu'à notre prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, et à Ibrahim, alayhi salam. Et quand on est un ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, déjà, entre nous les êtres humains, quand on dit que X, Omar est mon ami, et Karim est mon ami intime, vous savez qu'il y a une différence entre les deux. Non. Qu'en est-il donc par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Mais donner plus de détails, ce n'est pas de notre ressort. Non, tafadhal.
Jazakallahu khairan, Cheikh. Nous allons passer à la troisième question, question d'un frère. Donc il dit, tout d'abord, Cheikh, je tenais à vous dire que je vous aime en Allah. Ma question porte sur la aqida. Je voudrais savoir si dans Al-Barzakh, les âmes peuvent se rencontrer et si on peut circuler librement. Que sait-on d'autre concernant cette phrase qui sépare la mort d'une personne et sa résurrection? Pouvez-vous détailler la réponse? Barakallahu fikoum. Donc je refais un rappel, Barakallahu fikoum, c'est une question par personne. Donc pour les prochaines questions, Jazakallahu khairan, de ne poser que questions. Tfadal Cheikh, ou Jazakallahu khair.
Donc je dis à cette personne, Ahabbak Allah, Ahabbak alladhi ahbabtani lahu. Donc, puisse t'aimer celui qui tu m'as aimé en lui. Et si jamais, un jour je rencontre cette personne qui m'a dit cette phrase, je vais l'éprouver et la tester. Je vais rentrer directement ma main dans sa poche et prendre l'argent qu'il a et je vais voir s'il va me laisser les prendre parce que quand on aime quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment, yani, on l'aime plus que nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il dit? Je me suis trompé, j'ai dit phrase et c'est phase. Bon, donc je lis maintenant la question. Je tenais à vous dire que je vous aime en Allah. Ça, j'ai répondu. Ma question porte sur la aqida. Je voudrais savoir si dans le barzakh, les âmes peuvent se rencontrer et si on peut circuler librement. Que sait-on d'autre concernant cette phase qui sépare la mort d'une personne et sa résurrection? Pouvez-vous détailler, Inch'Allah ta'ala. Donc je dis d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a appris. Quand on meurt, non, et qu'on est dans le barzakh, c'est-à-dire entre cette vie et l'au-delà, c'est ça le barzakh, c'est la barrière. C'est-à-dire quand on est dans la tombe, non, des fois, on est dans la tombe pour répondre aux questions, etc., et pour voir sa place, etc. Et des fois, on est dans le paradis si on est quelqu'un de bien. Et si on est dans le paradis, on ne l'est pas avec le corps. On l'est avec l'âme. Comme dans le hadith authentique, que yani, nos âmes vont être mises dans des volatiles. Des volatiles, comme des poules ou des autruches ou je ne sais quoi exactement, Allah Ta'ala va mettre les âmes de ceux qui vont entrer au paradis, va les mettre dans ces volatiles et ces oiseaux, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des arbres, des paradis, des fruits des paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Et de même qu'il a dit pour les martyrs, qui seront dans des volatiles, mais de couleur verte, il a ajouté la couleur verte. Non. Et que le soir ils vont aller sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moyen, ça c'est pour qui? C'est pour les croyants en général et les volatiles en vert, pour les martyrs en particulier. N'empêche, comme dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, que des fois l'âme est dans le paradis et des fois elle est où? Des fois elle est dans la tombe. Il a dit ça monte et ça descend comme ça. Non. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit d'un hadith qu'il était hasan, c'est-à-dire bon, comme quoi yani, quand on meurt que les âmes se rencontrent. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. Les âmes se rencontrent. Il a cité un hadith où il est dit que quand la personne meurt et que les anges commencent à monter avec l'âme de la personne jusqu'ils arrivent au premier ciel, quand ils rentrent dans le premier ciel, il a dit que les âmes des croyants, si cette personne est croyante, vont l'accueillir. Ils vont même commencer à lui poser des questions. Il a dit jusqu'à ce que les anges disent aux autres âmes qui l'avaient précédé, lui disent laissez-la, laissez cette âme se reposer, elle vient juste de quitter le bas monde, laissez-la se reposer. Non, comme ça ils lui disent. Et il a rapporté le hadith où il a dit comment ça lui poser les questions. Comment as-tu laissé X, comment as-tu laissé Y? On a dit au point, on va lui demander, est-ce que X ou Y s'est marié? Subhanallah al-Azim. C'est-à-dire une personne qui connaissait une personne non mariée, et ensuite cette personne est morte. Alors maintenant, elle profite de demander à cette personne qui la connaît, elle lui dit, est-ce que X s'est marié? Subhanallah al-Azim, le mariage, comment c'est important. Il a dit jusqu'à ce qu'il lui demande et X, comment va-t-il? Alors la personne qui vient de décéder répondra X, tu dis X, comment va-t-il? Pourquoi? X n'est pas avec vous, ça fait longtemps qu'il est mort. Ah, alors la personne qui a posé l'âme qui a posé la question dira donc il est chez il a été de l'autre côté. Dhuhiba bihi ila ummihi al-hawiya. Donc celui-là, que Allah Ta'ala nous préserve, donc il a été emmené du côté des kofars. Donc il est du côté des gens du feu. Naam. Donc ces croyants-là ne savent pas qu'il est mort. Naam. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, que le kafir, quand on veut le faire montrer, on va le faire monter pour le faire monter vers Allah subhanahu wa ta'ala, que déjà dans le premier ciel, quand il frappe à la porte, on ne lui ouvre pas. Et quand on va pas lui ouvrir, on va le jeter de là-bas, on va le jeter du ciel, comme on l'a cité plusieurs fois. Donc les croyants, leurs âmes, ne savent pas que cette personne est déjà morte. On dit celles qui sont enterrées à côté ou pas forcément. J'ai pas compris cette phrase. J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Non, pour tout le monde. Et ceux qui se connaissent, vont poser des questions à la personne qu'ils connaissent. Comment vas-tu? Comment as-tu laissé X? Comment as-tu laissé Y? L'épicier, peut-être le boulanger, comment qu'il va, ton oncle, et comme ça. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadl, inshallah ta'ala, pour la troisième question ou la quatrième. Tfadl.
Jazakallahu khairan, Cheikh. Nous allons passer à la quatrième question. Question d'une sœur qui demande. Qu'Allah vous récompense, Cheikh. Dans un précédent cours, vous avez expliqué le grand bénéfice de faire le plus d'actes surérogatoires pour une personne qui souhaite jeûner le plus possible pour se faire pardonner et combattre son nafs. Est-il préférable de suivre la sunna en jeûnant le lundi et le jeudi, ainsi que les jours blancs, ou peut-elle jeûner autant qu'elle le peut et s'arrêter quand elle le souhaite? Barakallahu fikum, tafaddal ya cheikh.
Avant de répondre à cette question, je viens de me rappeler une chose ou deux choses. Non, parce que des fois, j'ai dans la tête de dire des choses. Ensuite, subhanallah al-azim, j'oublie. Comme on dit. La première des choses, c'est par rapport il y a deux jours, c'est-à-dire le cours passé samedi, il y a deux jours de cela. À la fin du cours, je vous avais mis un lien pour une vidéo d'une sœur qui parlait sur le livre Le mal et le remède et qui expliquait comment qu'elle prenait des notes, etc. J'ai oublié de vous dire que moi dans ma vidéo j'ai pas vu ça, mais quelqu'un m'a dit que quand je suis arrivé à expliquer, j'ai expliqué le nom de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et j'ai dit Ibn al-Qayyim al-Jawziya, et Jawziya, j'avais dit c'était un arbre, et plus spécialement c'était l'amandier, ça donne les amandes de Jawz. On m'a dit qu'une sœur, a dit à cette sœur que j'avais fait une confusion, et que Jawziya, c'est pas l'amandier, car il y a l'ouz et il y a le jawz. Et l'ouz, c'est ça les amandes et l'amandier. Mais son nom ici, c'est le jawz, il y a le jawz, c'est pas l'ouz. Et le jawz, c'est les noix. Donc là, l'arbre, c'est le noyer. Et ce n'est pas, yani, l'amandier. La sœur n'a pas dit noyer, mais a dit c'est les noix. Donc l'arbre, c'est le noyer et non pas l'amandier. Je dis à cette sœur, barakallahu fiki, jazakillahu khayran. Et pour toute personne, yani, qui trouve que j'ai fait une confusion, une faute ou là, de me ramener vers, yani, la vérité et le haqq bi'idhnahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala récompense cette sœur qui a su, yani, que j'ai fait une confusion et a, nous a donné cette faïda, barakallahu fiha. Et la deuxième des choses que j'ai oublié de dire, c'était que la vidéo, le lien que j'ai mis, c'était spécialement pour les sœurs et pas pour les frères. Mais j'ai oublié, qaddar Allah ou ma shafa'al, plusieurs fois je pense dire des choses et je les oublie. Naam. Donc, tfaddal inshallah ta'ala, je lis la question. C'était logique quand même. Qu'est-ce qui était logique? Que c'est pour les sœurs. Oui, mais j'ai oublié de le dire. Quand je mets un lien, quelle est la preuve que c'est seulement pour les sœurs? Il faut que je le dise. Naam. Al-Muhim. Dans un cours précédent, vous avez expliqué le grand bénéfice de faire le plus d'actes surérogatoires pour une personne qui souhaite jeûner le plus possible, pour se faire pardonner et combattre son nefs. Est-il préférable de suivre la sunna en jeûnant lundi et jeudi ainsi que les jours blancs, ou peut-être jeûner autant qu'elle le peut et s'arrêter quand elle souhaite, barakallahu fikoum? Je dis les deux c'est sunna. Les deux, c'est sunna. Si tu jeûnes lundi et jeudi, et les jours blancs, et Ashura, et Ayyam Dhul Hijjah, par exemple, et qu'est-ce qu'il y a avec Ashura? Il y a quelque chose de très important. Arafat, par exemple. Naam, voilà. Ça, c'est sunna. Et si tu veux jeûner, naam, comme ça, il y en a 15, 20 jours d'affilée, ensuite s'arrêter, ensuite rejeûner, et comme ça, tout ça c'est sunnah. Le prophète, dans un hadith authentique, on disait de lui qu'il jeûnait jusqu'à ce qu'on disait il ne va plus s'arrêter. Ensuite, manger, c'est-à-dire ne jeûner pas, jusqu'à ce qu'on dise il ne va plus... il ne va plus jeûner. Subhanallah. Donc, les deux c'est sunnah. Les deux, c'est sunna. Allahumma barik. Jazakum Allah khair. J'ai même oublié comment qu'elle s'appelle. C'est une de mes petites filles. Mais dommage, j'ai oublié comment qu'elle s'appelle. Oh là. C'est pas grave. Attendez, j'arrête un instant pour essayer de me rappeler comment qu'elle s'appelle. Attendez, je vais demander comment qu'elle s'appelle et je reviens.
Amina. Wasma, Allah.
Donc j'ai ramené son prénom et je suis revenu. Non, mais il y en a qui vont s'étonner, subhanallah. Ils ne savent pas comment il s'appelle. Donc c'est une petite fille qui s'appelle Jumana. Elle s'appelle Jumana. Taïb. On revient donc à notre hadith. C'est de la sunna quoi? C'est de la sunna de jeûner lundi, jeudi et les jours connus. Et c'est de la sunna aussi de faire comme le prophète sallam, des fois, de jeûner 15, 20 jours, 25 jours d'affilée, ensuite d'arrêter 20, 20 jours, par exemple, ne pas jeûner. Naam. Fadal.
Barakallahu fik, Cheikh. Cheikh, vous m'avez fait vraiment rire. Allahumma barak. Ça m'a rappelé Cheikh Mohamed El-Bana. Naam, qui était Allahumma Jeddah. Ce grand savant qui était à Jeddah, qui avait je ne sais plus combien d'enfants, et qui ne se rappelait plus le prénom de ses enfants, mais un ayat, Allahumma barak, il sortait aussitôt. Masha'Allah, Cheikh, Allah yahfadak, wa yahfad bentak, amin, ya rabbi l'amin. Donc on va passer, Inch'Allah, à la prochaine question. Question numéro 5, question d'une sœur qui dit, Havdakumullah, très cher Cheikh Chalabi, est-ce que l'amour qu'une femme porte follement pour son mari, donc elle dit bien follement pour son mari, rentre dans le fait de l'aimer comme on aime Allah Azza wa Jal. Tafadhal ya Cheikh, wa jazakallahu khairan.
Non, ça ne rentre pas tant que s'il y a contradiction entre les deux, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala que je fais devancer. Naam, ça devient interdit. Cet amour porté, yani, envers le mari, follement, devient interdit si quoi? Si par exemple, Allah Ta'ala me dit maintenant, c'est l'heure de la prière, il faut prier. Le mari me dit non, on ne prie pas maintenant, on va rattraper le soir. Et j'accepte ce que me dit mon mari. Là, ça rentre dans le shirk. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala me dit, par exemple, tel acte, quand on fait les choses intimes, tel acte est interdit. Et mon mari me dit non. Même si c'est interdit, on fait cette chose. Et je le fais. Là, ça devient le shirk. Allah Ta'ala a dit cette chose est interdite. Mon mari a dit on l'a fait. Et je l'ai faite. Ça rentre dans le shirk. Ça, c'est un amour des fous. Des fous qu'on doit emmener à l'hôpital pour se soigner. Naam. Mais si je l'aime follement et ça reste dans le hadal, voilà, si par amour son mari, elle accepte les péchés de son mari, il le laisse faire. Dans ce cas, bien sûr, ça devient haram, cet amour. Et cet amour va, c'est-à-dire cet amour mène au feu, que Allah Ta'ala nous préserve. Mais si j'aime ma femme follement ou bien vice-versa, mais naam, je ne transgresse pas les hudoud d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, yani, ce n'est pas grave, bi-idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tafadhal.
Jazakallah khairan, ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 6. Question d'un frère qui demande, est-il possible qu'un pieux croyant, un pieux croyant, soit l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, ou bien ceci est un privilège qui n'a été accordé qu'à Ibrahim alayhi salatu wa salam? Donc, Cheikh avait répondu à la question au cours. Tafadhal, ya Cheikh. Ceci est un privilège qui n'a été accordé qu'à Ibrahim alayhi salatu wa salam.
Naam, dommage, cette personne nous a pris une question, alors que comme tu dis toi, et tout le monde sait, je suis sûr que tous ceux qui écoutent connaissent la réponse, et savent que c'est une spécificité à Ibrahim et Mohammed alayhi salatu wasalam. Et je l'ai dit plusieurs fois dans le cours. Je pense que la personne, yani, est venue en retard dans le cours, Allahu alam. Donc je dis, être intime d'Allah subhanahu wa ta'ala est une spécificité, seulement pour Mohammed et Ibrahim alayhi salatu wasalam. Aucune personne dans le monde qu'elle atteigne ce qu'elle veuille dans la piété ne pourra être un jour l'ami intime naam d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tafadhal. C'est pour ça qu'on ne va pas compter cette question. On va dire qu'on est toujours à la cinquième. Maintenant, c'est la sixième. Tafadhal.
Cher, si vous me permettez, est-ce qu'une personne, lorsqu'elle sait ça, lorsqu'elle entend ça, est-ce qu'elle a le droit d'être triste, c'est-à-dire d'être triste dans le fait qu'elle ne pourra pas faire partie des amis intimes d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'une personne peut être triste, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas toléré ou sans aller cher?
On ne peut pas être triste. Pourquoi? Parce qu'on accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jalla qui a décrété cela. Et nous, on doit l'accepter avec une poitrine yani, ouverte. Alhamdulillah. J'accepte que Allah Ta'ala ait décidé qu'ils ne prennent pas d'amis intimes, sauf ces deux, alayhim assalatu salam. J'accepte avec joie, avec joie. Alhamdulillah. Naam, ce qu'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala, je l'accepte. Naam. C'est comme ça qu'on doit prendre cette chose. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal.
Jazakallah khairan, Cheikh Baraklou. Donc nous allons passer à la question numéro 7, question d'une sœur qui demande: Ahsanallahu ilaykoum, ya Cheikh. Lors d'un cours antérieur, la question avait été posée sur la validité de la reconversion d'une personne qui visait par là un mariage. Donc la personne s'est convertie pour le mariage. Et il lui avait été répondu que sa reconversion était valable. Or, pour qu'une action soit acceptée d'Allah Azza wa Jal, il y a trois conditions, dont la sincérité. Aussi, je n'ai pas compris pourquoi sa reconversion est valable. Barakallahu fik ya Cheikh, wa jazakallahu khair. Tafaddal ya Cheikh.
Naam, je reconfirme, sa reconversion, disent les savants, est valable. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a le cas de, Abu Talha, radiyallahu ta'ala anhu. Naam, je cherchais son épouse, avec Umm Sulaym, jazakallahu khair. Donc, il y a le cas de Abu Talha qui s'est reconverti spécialement pour Umm Sulaym. Donc, on a déjà ça dans les selfs. Et deuxièmement, pourquoi c'est accepté? Parce que il n'y a pas une personne qui entre en islam, naam, avec une mauvaise intention, sans que Allah Ta'ala ne lui change l'intention en bonne. C'est pour ça. Beaucoup de selfs ont dit, on a demandé la science, pas pour Allah. Ensuite, Allah n'a voulu que cette science revienne et devienne pour Allah et pour lui, Azza wa Jal. Quand quelqu'un demande qu'il veut la conversion en islam, même si son but n'est pas vraiment l'islam, on le laisse. On ne lui ferme pas la porte. On ne lui dit pas non, ce n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que dès qu'il connaîtra l'islam, il sera obligé, naam, soit d'apostasie ou l'ayadu billah, de repousser la mauvaise intention et de la changer en bonne. Quand il va voir c'est quoi l'islam et les conditions et ceci et cela, c'est tellement beau l'islam qu'il préférera éloigner de lui toutes les mauvaises choses pour que Allah Ta'ala accepte de lui. Naam. C'est pour ça que quand la personne dit que pour qu'il soit accepté, il faut l'intention, etc. On dit c'est vrai. Ça, c'est s'il meurt comme ça. S'il rentre avec une mauvaise intention et il continuera ainsi jusqu'à mourir. Ça, bien sûr, ce n'est pas accepté et au Qiyama, il sera éternellement en enfer. Mais on sait et on a su et ça a été prouvé que dès qu'une personne rentre en islam, même avec une mauvaise intention, la plupart du temps, 99%, bi'idhnillahi ta'ala, comme on dit en arabe, c'est yahsounou, naam, islamouha. Et son islam deviendra, masha'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlan.
Jazakallahu khairan, Cheikh, pour cette explication. Barakallahu fik. Nous allons passer à la huitième question. Question d'un frère ou d'une sœur, je ne sais pas, vu le pseudo. Quelle est l'explication du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'invocation peut repousser le destin? Barakallahu fikoum ya Cheikh. Tfadal ya Cheikh.
Naam, Ousmak, Mahmoud, tu n'as pas dit où est la relation de cette question avec le cours. Naam, où est la relation de cette question avec le cours? Aqida, jazakallahu khairan. Ça. De toute façon, même s'il n'y avait pas de relation, c'est trop tard quand la question est posée. Inch'Allah ta'ala, il faut que je réponde si je connais la réponse. Al-Muhim. Quelle est l'explication du hadith dans lequel le prophète sallam a dit que l'invocation peut repousser le destin? Il a dit que l'invocation repousse le destin. Comme ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que l'invocation elle-même fait partie du destin. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne une chose, des fois il la donne de lui-même, sans cause, sans cause. Tu es assis, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Tu vas ouvrir, c'est un exemple là, tu vas ouvrir, tu vas trouver une personne que tu connais, ou la salam alaikum salam, voilà, par exemple, 100 euros, voilà, je te donne, c'est billah, ou là, quelqu'un m'a délégué pour que je les donne, ou là. Donc, c'est 100 euros qui sont venus maintenant. Est-ce que moi j'ai fait quelque chose pour les avoir? Je n'ai rien fait. Hein? J'étais assis, ils sont venus. Ça, c'est venu directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le destin, a mis dans la tablette préservée, que tel jour, j'allais faire des douas, hein, j'allais faire des douas, des invocations, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'enrichir, de me donner un peu d'argent. Non. Et Allah Ta'ala écrit dans la tablette préservée, puisque j'ai fait ces doigts là, donc Allah Ta'ala va m'envoyer de l'argent. Et il a accepté mes doigts. J'ai fait mes doigts, deux ou trois jours après, il y a quelqu'un qui est venu frapper et m'a donné de l'argent. Donc, Naam, il y a des choses qui sont prédestinées comme ça, directement dans l'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qui sont prédestinées avec la doigt. La même chose pour yani, ça c'est pour faire venir la chose, la même chose pour repousser une chose, pour repousser. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans la tablette préservée que j'allais faire une doua que Allah ta'ala, par exemple, j'allais faire une doua de me préserver de telle maladie. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a écrit que cette personne sera préservée de cette maladie à cause de la doua qu'elle a faite. À cause de la doua qu'elle a faite. C'est-à-dire, si ce n'est ma doua, que Allah Ta'ala a su que j'allais faire, il m'aurait donné telle maladie. Mais Allah Ta'ala a su que j'allais faire cette doua et a refoulé de moi telle maladie, a refoulé le destin. Mais en fait, il n'a été refoulé que par le destin qui est l'invocation. Car cette invocation qui a repoussé le destin, elle-même était écrite dans le destin. Allah Ta'ala a su, j'allais la faire. C'est pour ça que il a dit à l'Aïssa Salam que l'invocation repousse le destin. Naam. Fadlan.
Barakallahu fik, Cheikh. Wa jazakallahu khair. Nous allons passer à l'avant-dernière question, question numéro 9. Question d'une sœur qui demande qu'Allah Azzawajal vous préserve, Cheikh.
Très rarement, une seconde, je suis au téléphone, une seconde. Fadlan Mahmoud, j'entends la question.
Barakallahu fik, Cheikh. Donc nous allons passer à la neuvième question. Question d'une sœur qui dit qu'Allah Azzawajal vous préserve, Cheikh. Donc elle dit, il y a peu, j'ai dit à une personne, tu es Dieu, toi? Bien sûr, je n'attendais pas de réponse. C'était dans l'intention de vouloir dire, tu n'es pas Allah pour dire telle et telle chose. La personne m'a tout de suite reprise et je me suis repenti. J'aurais dû lui dire autrement, mais cette parole est sortie spontanément et c'était vraiment dans l'intention de lui dire seul Allah Azza wa Jal sait telle et telle chose. Je ne me rappelle plus du sujet. J'ai peur que ce soit une parole annulative de l'islam. Pouvez-vous m'éclaircir?
Donc cette personne dit à une autre, tu es Dieu, toi? Bien sûr, je n'attendais pas de réponse, c'était dans l'intention de vouloir dire tu n'es pas Allah. Naam, j'ai compris ce qu'a voulu dire la personne. Naam, j'ai compris ce qu'a voulu dire cette personne. Ensuite, elle a dit, cette parole est sortie spontanément. Et c'était vraiment dans l'intention de lui dire que cela, c'est telle et telle chose. Justement, c'est ça ce qu'il fallait dire. Il fallait dire, par exemple, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est seul Allah ta'ala qui sait, yani, qui juge, yani, yom al-qiyama. C'est seul Allah ta'ala qui donne cette chose, et ainsi de suite. Naam. Surtout que la personne dit que c'est sorti spontanément sans qu'elle le veuille. pour qu'une parole devienne ou la soit un annulatif de l'islam, il faudrait que, yani, premièrement, que cette parole en elle-même soit un annulatif, car si en elle-même ne l'est pas, elle ne peut pas l'être. Et deuxième condition, il faut que ça soit, yani, pas spontanément, mais que j'ai la parole dans mon cœur et que, yani, je réfléchisse et que je la fasse sortir de mon cœur par le biais de ma langue sciemment et non pas spontanément. C'est pas elle sort d'elle-même, mais c'est moi qui l'ai fait sortir. C'est dans ce cas que ça devient un annulatif, si la parole, comme j'ai dit, en elle-même est un annulatif. Et même déjà, j'ai des doutes. Quand on dit à quelqu'un, lui, tu es Dieu, j'ai des doutes qu'en elle-même, cette phrase soit un annulatif. Parce que on ne veut pas dire à la personne que, est-ce que tu es Dieu, réponds-moi. Non. Mais on veut lui dire que tu ne l'es pas. On veut lui dire que tu ne l'es pas. Même si, de préférence, on évite une phrase pareille. Mais je dis à la personne que, c'est pas ce qu'elle voulait dire d'un côté et de l'autre, elle l'a dit spontanément, sans le vouloir. Donc le maximum à cette personne, c'est qu'elle dise plus cette phrase et qu'elle l'évite. Non, mais qu'elle l'évite. Hein, et que le mu'min, le croyant, le pieux, doit toujours choisir, les phrases qui sont les plus adéquates avec l'alphaz nabawiyya, al-mustafawiyya, comme dit Ibn Taymiyyah, et shar'iyya. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Tafadhal.
Jazakallahu khayran. Donc nous allons passer à la 10e question. Question numéro 10. Et dernière question. Qu'Allah vous préserve, ya Cheikh, ainsi que les admins. Amin. Lors d'un précédent cours, vous nous avez expliqué que le mot kursi veut dire repose-pied ou piédestal. Mais dans beaucoup de livres de Aqida, on traduit ce mot par trône. Dans un extrait de Da'wa numéro 1288 de Cheikh Ibn Baz, il est traduit par trône et non par piédestal. Est-ce une mauvaise traduction de l'arabe ou pas? Barakallahu fikoum, ya Cheikh. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Tafadhal.
Oui, c'est une mauvaise traduction, très mauvaise et fausse. Et je suis sûr que Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et j'ai lu ça. Et je suis sûr que Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, n'a pas été au courant. Et on lui a pas dit comme ça en arabe, voilà, on a traduit ça par arche. Si on lui a dit arche, il aurait dit non, c'est pas arche. Mais il a dû faire confiance au traducteur. Et on lui a dit que c'était un bon traducteur de Al-Sunnah ou Jama'a. Il a dû lui faire confiance. Non. Sinon, c'est une très mauvaise traduction. La plus mauvaise qu'elle soit. Non. Donc, voilà. Aujourd'hui spécialement, si vous voulez, on va ajouter, Inch'Allah ta'ala, 5 autres questions. On va ajouter 5 autres questions, bi'iznillahi ta'ala. Tafadhal.
Bon, cher, le temps que les questions arrivent, j'ai une question que le frère Habib a eue par une personne, donc je vais la lire. Elle est un peu longue. Donc, salam alaikum, j'étais une personne accrochée à ma religion, plein de certitudes, et par la suite, j'ai eu un appartement, j'ai vécu seul, je me suis plus isolé dans la solitude, et de plus, j'ai appris beaucoup et écouté le mal et les péchés des musulmans. Ça m'a beaucoup anéanti dans ma psychologie, sensibilisé à point. Je suis devenu paranoïaque et je déteste beaucoup les musulmans, à l'apparence de la sunna à cause des problèmes. Je me dis des choses dans ma tête, je doute d'eux, plus j'ai plus de confiance et dégoûté. J'ai eu une autre image de la réalité car à la base je suis une personne très sensible et très bonne dans la bonté. Et le fait de savoir tout ça m'a détruit moralement, ça m'a éloigné de la jama'a et je reste seul chez moi. Et j'ai contracté une phobie sociale due à la solitude. J'ai commencé à faire des péchés chez moi, comme délaisser la salade, etc., à cause de l'isolement, de rester seul. Ça a contracté des SOS, doute, je ne fréquente plus les gens, car je me sens très mal devant les gens. Quand je sors, j'ai automatiquement des gros SOS, je me sens très mal et mon comportement change. veuillez me conseiller, cher, qu'Allah vous comble, barakallahu fik. Juste si je peux rajouter quelque chose, là, cher, c'est pas très logique, donc je pense que la personne doit avoir un, doit être peut-être touchée, car elle dit qu'elle déteste les musulmans par rapport à tous les péchés qu'ils commettent, et ainsi de suite, ceux qui ont l'apparence de la sunna, mais après, elle-même a commis des péchés. Donc, Allahu a'lam, ya cher, vous allez nous dire ce qu'il en est, mais je pense que la personne doit être touchée, Allahu a'lam. Tfadal, ya cher.
Une seconde, inshallah ta'ala, on va reprendre les questions-réponses dans deux minutes ou trois, inshallah ta'ala.
Salam. Naam, cher, tfadal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, juste, je voulais rajouter quelque chose par rapport au cours de cher. Donc, les cours sont le lundi, le mercredi et le samedi. Donc, dorénavant, ça sera soit 18h45, voire 19h, comme nous a dit Cheikh tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Il y a une chaîne Telegram, il y a le Twitter, donc Akhi Fawzi, ou un autre admin, si vous pouvez mettre tout cela sur la room. Il y a aussi le site de Cheikh. Naam, il y a Akhi Habib. Donc, si quelqu'un peut mettre les liens, barakallahu fikoum. Donc, par rapport à cela, il y a Akhi Habib, on avait dit au... J'ai eu un message de... Donc, on avait dit de bloquer vos PV. Il faut bloquer vos PV. Donc, comme avait dit Shir, on vous demande de bloquer vos PV. Après, si les personnes se font embêter, nous, on n'est pas responsable parce qu'on vous dit de bloquer vos PV. Donc, pour bloquer les PV, Akhi Fawzi, si tu veux bien le... Autrement, je vais le faire, ça va être... Donc, il faut aller dans Messenger, Préférences... Lorsqu'on est dans préférences, il faut aller sur privacy option. Privacy option. Et là, on met juste allow contact list. Donc, pour message pour privatage, on met ce que j'ai dit juste à l'instant. Barakallahu fikoum. Donc, pour message pour privatage, on met ce que j'ai dit juste à l'instant. Barakallahu fikoum. Donc, Yachir, vous êtes prêts? Là, je relis la question. Inch'Allah, je vous relis la question. J'étais une personne accrochée à ma religion, plein de certitudes, et par la suite, j'ai eu un appartement. Donc, la personne a eu un appartement. Est-ce qu'on peut nous dire si c'est un frère ou une sœur qui pose la question? Si Habib peut l'écrire, je continue la question. Donc, la personne dit, j'ai eu un appartement, j'ai vécu seul, c'est un frère. J'ai vécu seul, je me suis isolé dans la solitude, et de plus j'ai appris beaucoup et écouté le mal et les péchés des musulmans. Ça m'a beaucoup anéanti dans ma psychologie. Sensibilisé, je suis devenu paranoïaque et je déteste beaucoup les musulmans à l'apparence sunna. À cause des problèmes, je me dis des choses dans ma tête, je doute d'eux, plus de confiance et dégoûté. J'ai eu une autre image de la réalité car à la base je suis une personne très sensible et très bonne dans la bonté. Et le fait de savoir tout ça m'a détruit moralement, ça m'a éloigné de la jama'a. Je reste seul chez moi et j'ai contracté une phobie sociale due à la solitude. J'ai commencé à faire des péchés chez moi, comme délaisser la salat, etc. À cause de l'isolement, de rester seul, ça a contracté des wasawis. Je doute, des doutes. Je ne fréquente plus les gens car je me sens très mal devant les gens. Quand je sors, j'ai automatiquement des gros wasawis. Je me sens très mal et mon comportement change. Veuillez me conseiller, cher, qu'Allah vous comble. Barakallahu fik. Tfadal, les chers. Wa jazakallahu khayra.
Non. Il y a deux choses très importantes ici à dire. La première, c'est que, yani Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre l'islam. Et ne nous a pas ordonné de suivre les musulmans et de les prendre comme modèle. Donc, lui, quand il voit les musulmans faire ceci, cela, naam, ça doit l'attrister. Ça nous chagrine quand on voit un musulman, surtout s'il a l'apparence de la sunna, il fait telle et telle chose. Ou là, on voit une sœur avec djilbab, etc., elle fait telle et telle chose. Ça nous attriste, ça nous chagrine. Mais alhamdoulillah, ce n'est pas mon modèle. Ce n'est pas elle ou là, l'autre qui sont mon modèle. Mon modèle, c'est qui? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله إسوة et أسوة حسنة. نعم. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la rigueur aussi c'est les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ah, n'importe quel musulman maintenant, il va faire des fautes, etc. Je vais dire c'est l'islam qui a fait ça ou là. Et comme a dit quelqu'un de très connu, alhamdoulilah, quelqu'un reconverti, un Français qui s'est reconverti, il a dit alhamdoulilah, louange à Allah, que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Alhamdoulilah, que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Naam. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut mettre dans la tête. Le modèle, c'est l'islam, c'est le Coran et la Sunna. Et ce n'est pas les gens et les musulmans. La deuxième des choses, c'est que c'est très dangereux pour une personne de rester comme ça seule et de vivre esseulé, loin des gens. Très, très, yani, dangereux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani, Sahih Al-Jami' et les autres, il a dit inna ash-shaytana ma'a al-wahid wa innahu min al-ithnayn ab'ad. Il a dit le shaytan est avec la personne esselée et il est loin de deux personnes. Quand on est deux et plus, il est loin. Quand on est seul, il est avec nous, il nous tient compagnie. Donc quelqu'un va dire, donc maintenant, si je vis seul, comment je fais? Je suis célibataire, je vis seul. Je suis divorcé, je vis seul. Je n'ai pas d'enfant, je vis seul dans mon appartement. Comment je fais? Donc je suis avec le shaitan. Je lui dis, le shaitan, quand tu es seul, le hadith a dit qu'il va être avec toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le chasser, tu le chasses. Naam, en étant toujours sous la haute surveillance. Je me surveille, je ne me laisse pas aller. Naam. Et ensuite, je peux être seul, mais avec les gens. Comment cela? Bien sûr, quand je suis seul, qu'est-ce que je vais faire? Ça dépend. Si maintenant je vais regarder la télé et je vais voir des choses qui ne sont pas bien. Donc maintenant, je suis avec les gens, avec les shayatins. Je ne suis pas avec le shaitan, comme a dit le prophète. Avec les shayatins. Tous les shayatins sont avec moi maintenant. À la télé, dans la maison. Ils sont contents de ce que je vois. Mais si par contre maintenant je vais ouvrir les livres des Sahaba et je vais ouvrir les livres du tafsir, les livres du fiqh, les livres de la sira, les livres de la aqida, je suis avec qui? Je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les Sahaba, avec les tabi'oun, avec les grands savants. Naam, je suis plus seul. Je suis plus seul. Car le shaitan est avec le seul quand il est seul, là, il met sa main sous sa joue et commence à penser. Il commence à penser, c'est quoi cette vie, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Ici, le shaitan va venir. Mais moi, je ne lui laisse pas de temps. Naam. Je suis avec les livres, je suis avec les cours. Je suis à quatre sur tête, en train d'écouter les sharh, shuruhat de Sheikh Ibn Uthaymeen, de Sheikh Ibn Baz, de Souleyman Rouhaili, de Mohamed Ben Hadi Medkhali, de Sheikh Rabi' de Hafidhamullah. Et comme ça, classe, je ne laisse plus de temps à qui? Au shaitan. Je dis à cette personne, naam, il faut casser naam, ce mur qui a fait de sorte que tu t'es éloigné naam, des frères. Et le prophète alayhi salam a dit que Inna Allah ma'al jama'a. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala était avec la jama'a et que naam, je dois avoir des contacts naam, avec des frères. Et si je suis une sœur, je dois avoir des contacts avec des sœurs. Les sœurs qui sont comme moi, dans le même minhaj, et qui sont mieux que moi dans le bon comportement, dans la science, dans ceci. Naam. Les voir, ça fait déjà monter la foi bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, voilà en général, yani, comment qu'on doit faire, ne pas rester seul et en même temps avoir des contacts, yani, avec des contacts très souvent hein, avec les frères et les sœurs, bi'idhnillahi ta'ala.
Donc, j'ai compris, cher, restez déconnecté, frère, inshallah. Donc, le temps que cher revienne, on rappelle lundi, mercredi, samedi, 18h45-19h, les cours de cher commenceront. Désormais, pour ce qui est alors d'être au courant de s'il y a cours ou pas, vous vous avez la chaîne Telegram. Donc si un frère peut mettre le lien de la chaîne Telegram de Cheikh Chalabi, et vous avez aussi le Twitter de Cheikh Chalabi, mais par contre sur le Twitter, Cheikh ne dira juste, le dira juste s'il y a cours. Non, pardon, s'il n'y a pas cours. Cheikh dira sur son Twitter s'il n'y a pas cours. Autrement, s'il ne met rien sur son Twitter, c'est qu'il y a cours. Voilà. Donc voilà, la chaîne Telegram, Barakallahu Fik Ya Akhi. Donc voilà, on attend le retour de Cheikh, Barakallahu Fik.
Vous m'entendez? Taïb, je ne sais pas exactement quand je me suis déconnecté. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je me suis arrêté, ou bien avez-vous tout entendu? Je ne sais pas. Et voilà. C'est-à-dire que la personne ne doit pas avoir de contact. Les contacts, naam, avec les frères qui sont comme nous et mieux que nous, c'est très important. C'est très important. Naam, c'est très, très important. Ça permet, yani, de se fortifier dans la foi. Ça permet de s'encourager. Naam, et de dire, tu vois, je ne suis pas le seul, là. Alhamdoulilah, on est, mashallah, on est un groupe. On est comme ça. Ça donne même la douceur de la foi. Et quand on s'en détache, on va dire, je vais adorer Allah seul, je vais fermer la porte de ma chambre et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, je ne veux aucun contact. Naam, la plupart du temps, on ne peut pas continuer. La plupart du temps, on ne peut pas continuer. Et petit à petit, on commence à délaisser les choses, ensuite à grouper entre la salat, ensuite à délaisser la salat carrément.
Donc nous allons passer à la question numéro 12. Qu'Allah vous préserve, mes chers, comment faire pour se repentir d'un vol, d'une chose haram? Exemple, une personne vole de la drogue et la vend. Que doit-elle faire? Allah dit, le vol et en plus de la drogue. Allahu Akbar. Fadal, mes chers.
Donc il dit, comment faire pour se repentir d'un vol, d'une chose haram? Exemple, une personne vole de la drogue et la vend. Je crois que la bonne question aurait été de dire ça au passé. Je crois que c'est ça la question. Je sors et je reviens, inchallah ta'ala. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc celui qui a volé quelque chose de haram, non, il a vendu. Il a vendu. Non, il a fait. Et vous voyez depuis qu'il a fait. Il a volé. Non, il a vendu le haram. Il a vendu le haram. Voler de la drogue et la vendre. Salam alaikum. Donc une personne qui a volé une chose haram et aussi l'a vendue, qu'elle fasse le repentir avec les conditions, qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et toute personne qui a volé une chose autrefois, et que cette chose est toujours chez elle, elle doit la rendre à la personne. Naam. Ou bien, si elle ne connaît pas la personne, par exemple, la vendre et donner cet argent au nécessiteux avec l'intention que c'est pour la personne que j'ai volé, si je ne sais pas où trouver la personne. À condition, quelle condition? À condition que la chose volée n'est pas haram. Vous comprenez? À condition que la chose volée n'est pas haram. Supposons par exemple que j'ai volé de la drogue autrefois. Et que j'ai toujours cette drogue avec moi. Ou là qu'il en reste une grande partie, par exemple. Et je viens de faire tauba maintenant. Est-ce que je vais rendre la drogue à cette personne? Je n'ai pas le droit de la lui rendre. Je m'en débarrasse en jetant cette drogue dans la mer. Et je fais tauba bi'idhnillahi ta'ala. Mais si par contre, la chose que j'ai volée, c'est halal, j'ai volé un téléphone, j'ai volé un ordinateur à quelqu'un, une montre, qu'est-ce que je fais? Je dois la lui rendre si je sais où trouver cette personne. Si je ne sais pas où trouver cette personne, ni je connais ses héritiers, si cette personne est morte, je ne connais personne. Donc, je vends par exemple cette montre et l'argent, je le donne aux nécessiteux avec l'intention que c'est pour la personne volée. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadda.
Ah oui, cher. Le Habib qui a mis un truc et ça m'avait fait rire. Donc, on va passer à la prochaine question. Question numéro 13. Une personne s'est fait voler sa voiture. Elle s'est permis de faire une quête d'argent pour lui car il doit encore payer une somme pour terminer de payer cette voiture.
Donc, Habib a dit que jeter la drogue dans la mer peut être oisif ou poisson. C'est vrai, si on va jeter des quintaux et des quintaux. Moi, je parlais, Annie, de quelques grammes. Il m'en reste, par exemple, 200 grammes ou 300 grammes ou 500 grammes ou quelque chose comme ça. Non. Une personne s'est fait voler sa voiture. Est-ce permis de faire une quête d'argent pour lui car il doit encore payer une somme pour terminer de payer cette voiture? Est-ce permis de faire une quête d'argent? Ce n'est pas seulement permis, c'est même conseillé. Non, comme a dit le prophète alayhi salam dans un hadith Hassan, Cheikh Al-Albani a dit hadith Hassan dans le Mishkat. Non, il a dit anfa'u an-nas. Non. Anfa'uhum lin-nas. C'est-à-dire que les meilleurs des gens, ou khayru an-nas anfa'uhum lin-nas. Les meilleurs des gens, ce sont ceux qui sont les plus utiles par rapport aux autres. Le meilleur gens, pas celui qui prie, mais jeûne et pas celui qui a prié. Ça c'est bien, c'est mashallah. Mais c'est aussi quoi? Celui qui est utile aux autres. Ensuite, il a dit, alayhi sallam, yani, il a dit, tu fais rentrer le sourire dans le même hadith. Tu fais rentrer le sourire dans, yani, à ton frère. Ou bien il a dit, tu fais rentrer la joie dans son cœur. Ou bien il a dit, tu chasses de lui un souci. Et ici, celui-là, celui à qui on a volé sa voiture, c'est devenu un souci pour lui ou pas? Un grand souci. Non. Et quand il a dit ici, yani on va faire une quête d'argent pour l'aider à ce qu'il achète une voiture. Si tu l'aides à acheter une voiture, tu vas rentrer une joie dans son cœur ou pas? Une grande joie. Et quand il sent qu'il y a des gens qui sont autour de lui pour l'aider, il va sentir de la joie, il ne va pas sentir. Il va sentir de la joie. Et comme ça. Non. Tout ça, si la personne le fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette personne, bien sûr, est connue, que c'est une personne, c'est-à-dire normale, on ne connaît pas de mal d'elle. Ce n'est pas une personne qui, avec sa voiture, ne cesse de faire monter les femmes dans sa voiture pour aller faire le haram et pour aller danser, etc. Celui-là, je ne l'aide pas. Mais c'est une personne, mashallah, un père de famille ou femme qui n'utilise sa voiture que yani, normal, comme tout le monde. Celui-là, je l'aide, inshallah ta'ala. Si je le fais pour le visage d'Allah, inshallah ta'ala, j'aurai beaucoup de récompenses. Naam, tfadda.
On fait 14 questions d'un frère qui demande: est-il obligatoire de prier sur notre prophète, alayhi salatu wassalam, quand le mu'addin prononce son nom, son prénom? Est-ce qu'il est obligatoire de prier sur lui, alayhi salatu wassalam? Tfadda les cheikhs, wa jazakallahu khayran.
Nous, les musulmans, on a deux choses. La première, on adore qu'Allah Azza wa Jal. On n'adore pas autre chose en dehors de lui ou bien avec lui. Et la deuxième des choses, on ne l'adore qu'avec sa législation. On ne l'adore pas avec nos passions et notre philosophie. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment qu'on fait et qu'est-ce qu'on dit si on entend l'adhan. Il a dit, dites comme il dit. Dites comme il dit. Et quand il termine, faites la prière sur moi et demandez-moi, yani, l'ouessila. Donc, quand il a dit, dites comme il dit, ça veut dire, quand il dit, shahadu an la ilaha illallah, je dis shahadu an la ilaha illallah. Je ne dis pas par exemple shahadu an la ilaha illallah azza wa jal. Shahadu an la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim. Non. Je dis exactement comme dit le muadzin. Shahadu an la ilaha illallah. Et quand on arrive ashhadu anna muhammadan rasulullah, je dis seulement ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et je ne dis pas ashhadu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rasulullah. Ou je dis pas ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pourquoi? Est-ce que parce que je n'aime pas le prophète sallam? Est-ce que parce que je n'aime pas faire la prière sur lui? Réponse: non. C'est parce que je n'aime pas la bid'a, c'est tout. C'est parce que j'aime, non, tellement j'aime le prophète sallam que je me suffis à ce qu'il m'a ordonné de dire et ordonné de faire. J'ajouterai ma. C'est comme dans le tashahhud. Quand je dis tahiyyatul zakat, ensuite je dis ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je ne dis pas ashhadu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu. Donc où est-ce qu'on s'est arrêté à la réponse quand je répondais? C'était quoi ce que vous m'avez entendu dire yani, en dernier? Fadlan.
Cher Oufane, vous étiez en train de répondre à la question là. Et je voulais juste vous dire, c'est que lui, il demande, est-ce qu'on doit prier sur le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'on entend le Mouaddin dire le prénom du prophète? C'est-à-dire le Mouaddin dit Shahadu anna Muhammad Rasulullah. Est-ce qu'on doit dire sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on entend le Mouaddin, lorsqu'il dit le prénom du prophète alayhi salatu wassalam? Tafadhal ya cheikh.
Justement, Akhi Mahmoud, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'était pour dire qu'on ne dit pas. Et que nous, on adore yani Allah subhanahu wa ta'ala avec sa législation. Et que le prophète sallam nous a pas dit de dire. Il nous a dit répétez ce que dit le Mouaddin. Il n'a pas dit dites alayhi salatu wassalam. Et moi aussi, je répète ce qu'a dit le Mouaddin. Le Mouaddin n'a pas dit alayhi salatu wassalam. Il a dit shahadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est tout. Et moi, je dis shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Voilà ce que je veux dire. La même chose dans le tashahhud. Je ne dis pas shahadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Shahadu anna Muhammadan abd. Naam. Même cette chose dans le tashahhud, on l'a dit à Abdullah ibn Abbas. Il a dit oui, je sais que Muhammad c'est Rasulullah, ou bien je sais que Allah c'est Azza wa Jal, mais nous on se suffit à ce qu'il y a dans la sunna. Juste pour terminer, il y a une sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas. Non. C'est que quand j'arrive à dans le mu'adhin, quand il dit shahadu an la ilaha illallah, et aussi quand il dit shahadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est permis, au lieu de répéter, au lieu de dire la même chose, c'est permis de dire wa ana. En arabe, wa ana, en français, ça veut dire et moi aussi. Et moi aussi. Voilà. Ça veut dire que quand tu entends le mot adlin, il dit shahadu an la ilaha illallah, naam, c'est permis que tu choisis ou bien tu dis shahadu an la ilaha illallah, ou bien tu dis wa ana. Wa ana, ça veut dire moi aussi. Et le mieux serait quoi? Serait de, gagner la plupart du temps, on répète, on dit shahadu an la ilaha illallah, et quand il dit shahadu Muhammad Rasulullah, tu dis shahadu anna Muhammad Rasulullah, et de temps en temps, quand il dit shahadu an la ilaha illallah, tu dis wa ana, et quand il dit shahadu anna Muhammadan Rasulullah, tu dis wa ana. Et comme ça, en même temps, tu apprends aux gens une sunna qu'ils ne connaissent pas, et en même temps, tu fais revivifier une sunna peut-être qui est morte. Naam. Tafadhal pour la dernière question.
Naam, jazakallahu khayran, ya cheikh. Donc, on va passer à la 15e et dernière question qui est Afwan. Je remets avec Bayulux. Est-il recommandé de glorifier ou d'exalter notre Seigneur quand il est cité comme on le fait avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, je fais un copier-coller et je vous mets ça sur Patok. Tafadhal, ya cheikh.
Est-il recommandé de glorifier ou d'exalter notre Seigneur quand il est cité? Quand on le fait avec le. Comme on le fait avec la prière sur le prophète Aslam. Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement. Là où il est cité Azza wa Jal. Là où il est cité Azza wa Jal. Naam. par exemple dans le Coran ou dans la Sunna, dans les invocations, etc., on se suffit à ce qu'a dit le prophète alayhi sallam. Naam. C'est comme je reviens au Tashahhud. Quand tu dis Tahiyatu Lillah, Zakrata, ensuite tu dis Washhadu an la ilaha illallah. Naam. Tu dis pas par exemple Wahdahu la sharika lah. Shhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tu n'ajoutes pas toi des choses Washhadu an la ilaha illallah 'azza wa jalla, la ilaha illallah al-'azim, Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim. Tout ça tu n'ajoutes pas. Tu te suffis à exécuter à la lettre ce que t'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand tu lis le Coran, par exemple tu vas l'étudier Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, quand tu dis Allahu la ilaha illa huwa, ou bien ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, tu vas pas dire Allahu azza wa jal la ilaha illa huwa et tu rahman rahim, tu vas ajouter des choses. Non. Naam, tu l'exaltes et tu le glorifies quand c'est toi qui dis des choses de lui, par exemple. Comme disait savant, il dit c'est pas bien de te dire, par exemple, Allah a dit cette chose. Tu dis Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, Allah Jalla fi'ula. Et comme ça. C'est-à-dire, quand c'est toi qui dis des choses, c'est toi qui parles de lui, Azza wa Jal. C'est toi qui as écrit quelque chose de lui, Azza wa Jal. Tu dis pas seulement Allah. Tu dis Allah Azza wa Jal. Allah, naam, Jalla fi'ula. Et comme ça. Mais si par contre c'est du Coran ou bien c'est des ahadith et des invocations, on se suffit à ce qu'il y a sans rajouter d'autres choses. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Il y a quelqu'un ici qui est mon gendre.
Bonjour.
Mon beau-fils. Kif, kif. Mon beau-fils. Là, qui vient de me dire une chose, il m'a dit que... On termine avec ça. Vous m'entendez d'abord ? Alhamdoulilah. Bon, pour l'argent de la drogue, comment la personne doit s'en débarrasser ? Car la drogue avait été vendue, mais maintenant il y a de l'argent de la drogue. Et c'est cet argent-là que la personne veut savoir ce qu'elle en fait. C'est pas comme ça que j'ai compris tout à l'heure la question. C'est pas comme ça que j'ai compris tout à l'heure la question. Non. Cet argent, Inch'Allah Ta'ala, la personne doit s'en débarrasser en le donnant à des nécessiteux. C'est plein de gens nécessiteux qui n'ont pas d'argent ou bien leur paye ne leur suffit pas ou bien n'ont pas pour acheter les médicaments et comme ça et comme ça. Non. Donc ils s'en débarrassent en le donnant au nécessiteux bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Si lui il en garde une partie pour lui, une petite partie, parce que vraiment il rentre aussi dans les nécessiteux, il y en a qui ont dit il peut. Non. Mais à la base c'est pas lui, à la base c'est les autres, les nécessiteux. Taïeb. Ensuite, puisqu'on parle de nécessiteux, etc., je disais que mon beau-fils vient de me dire maintenant qu'il y avait ou bien qu'il y a une sœur en Égypte. Et que cette sœur, les frères ou les sœurs, je ne sais qui exactement, avaient l'habitude de l'aider. Et que ils ont entendu de moi, quand j'ai parlé comme ça en général une fois, que j'ai dit qu'on ne donne pas son argent à une personne qu'on ne connaît pas. Alors ils ont arrêté de l'aider. Et que cette personne maintenant, Naam, est dans les mashakils. Et dans les mashakils et n'a plus d'aide, etc. Je dis... Je n'ai pas parlé moi de cette personne. C'est pas elle que j'ai visée quand j'ai dit qu'il faut pas donner à une personne qu'on connaît pas. Naam. Au contraire, une personne pareille, on doit l'aider. Une personne pareille qui, on sait déjà, a fait hijra, fisabilillah, pour aller là-bas. Ensuite, yani on la laisse coincée comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne la connaît pas. Je ne suis pas obligé de la connaître. Tant que je sais maintenant qu'elle a fait la hijra, puis c'est billah et qu'elle porte le djilbab et qu'elle a besoin d'aide, si c'était un kafir, je peux l'aider. Un kafir, naam. Voilà, là-bas, un chrétien qui est dans des mashakil, il n'a pas de quoi payer, il n'a pas de quoi manger. Je peux l'aider. Surtout si j'ai dans l'intention que pour lui montrer c'est quoi l'islam. Alors qu'en est-il maintenant, une de nos sœurs ou là, un de nos frères coincé là-bas, ensuite je dis que je ne le connais pas. Je le connais celui-là. Comment je le connais? Je le connais que c'est un frère, fidèle. Je le vois à la mosquée, je ne connais pas de mal de lui. On ne m'a pas dit que voilà, voilà ce qu'il fait. Non. Et encore, même si on m'a dit voilà, voilà ce qu'il fait, et maintenant il est dans ce qu'on appelle le pétrin. Il est dans le pétrin, il est coincé. Non. Donc, non, moi quand j'ai dit je n'aide pas quelqu'un, je ne donne pas quelqu'un à quelqu'un mon argent, à quelqu'un que je ne connais pas, non, c'est pour les aides yani, qu'on appelle, c'est pour les récoltes d'argent. Quelqu'un qui veut récolter de l'argent, moi je lui donne pas, je ne sais pas ce qu'il va faire avec mon argent. Mais quand c'est une personne qui a l'apparence, elle est dans le besoin, elle me dit aide-moi, je l'aide. Je l'aide. Non, je l'aide. Si maintenant, moi j'ai dit je ne donne pas à Baraka City, mais que je connais un pauvre qui a besoin d'argent, où je connais des gens, eux-mêmes je les connais, ils n'ont pas d'eau et ils ont besoin de construire un puits, je les aide, mais je ne suis pas obligé de passer par une autre personne, je les aide directement, voilà l'argent pour creuser le puits bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Mais je ne voulais pas d'intermédiaire, car l'intermédiaire, où est la preuve que mon argent il va le faire arriver où je veux, c'est ça le problème. Et si l'intermédiaire, c'est quelqu'un de salafi, c'est quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un qui a une tazkiya, ça, il n'y a plus de problème. Je lui donne aussi à l'intermédiaire. Mais je ne donne pas à une personne que je ne connais pas. Non. Surtout si je connais d'elle, cette personne, je connais d'elle que yani, elle fréquente n'importe qui, je ne sais quoi. Non. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans 2 jours. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته